Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à peindre vers 14-15 ans, et je voulais être peintre, et moi j'ai été peintre. J'ai eu cette chance énorme. J'ai eu une vie absolument extraordinaire. Je n'ai eu que de la chance, toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par plaisir. Je pense qu'on a très peu d'idées dans une vie et qu'on répète toujours plus ou moins la même chose. Et qu'il y a quelque chose qui est l'ordre du traumatisme. Et généralement, à un moment, on découvre quel est son traumatisme et on essaie de parler de ça et de le résoudre.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Enfant, il a commencé par sculpter de la pâte à modeler et puis un petit peu plus tard, il a peint. Il a tourné des films, il a pris des photos et réalisé ce qu'il fait encore aujourd'hui en France et à l'étranger, des installations. Fils d'un père juif d'origine russe, que sa mère catholique bretonne a pris soin de cacher pendant la guerre dans une niche sous le parquet de la maison parisienne de la rue de Grenelle, il est obsédé par la disparition. Qu'est-ce qui reste de nous? Comment laisser une trace? Comment faire revivre un être et provoquer chez celui qui regarde l'œuvre une émotion intime? Parmi ces nombreuses installations, il y en a une au Japon particulièrement touchante. Elle date de 2005. Sur l'île de Teshima se trouvent les archives du cœur. Vous entrez dans la pénombre et vous entendez quelque chose comme ça. Des cœurs battent dans cette obscurité traversée parfois par la lumière, atmosphère étonnante qui vous amène entre la vie et la mort, entre absence et présence. Bonjour Christian Boltanski.
Bonjour.
Accueilli sur des battements de cœur, ça provoque quoi en vous ce son?
Aujourd'hui on a à peu près, je pense, 140 000 battements de cœur qui viennent de pays très différents. Et le battement de cœur est un tout petit peu différent pour chaque personne. Le cœur change selon l'âge, mais en même temps chacun a sa signature. Et donc pour moi, c'est comme d'avoir énormément de monde qui sont là. Et effectivement, ces battements, forcément, l'œuvre a été faite, a commencé il y a très longtemps aujourd'hui. Hein. Et donc, un certain nombre de cœurs sont des cœurs d'humains qui sont morts. Mais ils ont une sorte de vie anonyme, ou presque anonyme, parce qu'il y a toujours le nom. Et puis, on entend ce battement de cœur, et on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu cette personne. Mais il y a une sorte de présence. Pour moi, justement dans ce désir de conserver, dire un nom, conserver un battement de cœur, conserver une photographie, conserver un objet ou un vêtement, est toujours une présence qui renvoie à une absence. Il y a eu quelqu'un. Je pense que une des choses qui a parcouru ma vie a été l'idée que chacun de nous est unique et en cela remarquable, et en même temps extrêmement fragile, parce qu'à la rigueur, on se souvient de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Et donc, il y a à la fois cette importance de chaque être, et de l'unicité de chaque être, et sa fragilité.
Boltanski, artiste de la disparition, ça vous convient?
C'est pas vraiment de la disparition, c'est du ratage. Parce qu'effectivement, dès le début, dans le premier texte que j'ai écrit très jeune, j'ai dit « je veux conserver ma vie en le mettant dans des boîtes, je veux empêcher la mort, je veux... » Et naturellement, on rate toujours. Donc,
parce que la mort advient et puis c'est tout.
Et voilà, et la disparition arrive forcément. Et donc, tous ces essais que j'ai pu faire ont abouti à une sorte de ratage. J'ai chez moi énormément de photographies d'êtres humains, mais ça ne dit rien.
On se souvient de votre installation de photos de Suisses anonymes disparus.
Oui, j'ai à peu près, je pense, environ 9000 Suisses morts chez moi et qui sont très calmes. Mais naturellement, ils ne disent plus rien. Vous savez, je ne sais plus qui a dit, si on regarde la photo de quelqu'un et qu'on ne sait pas qui c'est qu'il est vraiment mort. Enfin, donc, il y a une sorte de survie qui est donnée quand on peut reconnaître quelqu'un. Et à partir d'un certain temps, plus personne ne peut vous reconnaître. Et à ce moment-là, on est vraiment totalement mort. Donc, il y a cette sorte de choses étranges, de l'importance et de la disparition.
Sur votre tombe, peut-être pourrez-vous faire inscrire « il y a eu ».
Oui, peut-être. En tout cas, oui, il y a eu.
On va parler de la transmission parce que je sais que c'est un maître mot de votre œuvre et que vous avez très envie de profiter de ces deux heures sur France Inter pour parler de transmission avec vos invités qui d'ailleurs commencent à s'installer autour de cette table. On va les retrouver, mais d'abord écoutez Bernard Lavilliers, Paris la Grise.
Cette mélodie qui longe la Seine, du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis. Je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant. Son d'Apache, un refrain d'avant qui n'existe plus que dans les vieux films, quand le paradis avait des enfants. 3 heures du matin, quand passe le crime sur les maréchaux, le sang et la peur sont dans les vitrines. Où les caniveaux, comme un drap froissé, le ciel se déplie sur la ville grise. Un soleil mouillé réchauffe les eaux de l'académie. L'heure où les poètes sont sur le pavé, c'est la chanson de Paris la Grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu du temps des cerises. Un accordéon en joue le refrain. C'est la chanson de Paris la Grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu des cerises, un accordéon, on joue le refrain.
Bienvenue dans votre grand atelier, Christian Boltanski. On va parler de vous, mais pas seulement. On va parler aussi des artistes et des intellectuels que vous avez invités pour cet atelier du dimanche après-midi. Vous recevez des personnes qui comptent ou que vous souhaitez découvrir. Certains sont là, je le disais, une écrivaine japonaise qui publie chez POL. Bonjour, Ryoko Sekiguchi. Est-ce que je prononce bien votre nom?
Oui,
voilà,
parfait.
Ryoko Sekiguchi. Vous êtes aussi, paraît-il, une cuisinière hors pair et vous cuisinez notamment pour les fantômes. Alors ça, je pense que ça va passionner Christian Boltanski. Bonjour Christophe Boltanski.
Bonjour.
Monsieur le journaliste et monsieur l'écrivain, surtout avec le guetteur chez Stock, mais vous aviez aussi écrit il y a 3 ans La Cache. Vous leviez le voile sur la famille Boltanski au vécu on ne peut plus romanesque. Nous accueillons Catherine Grenier. Bonjour.
Bonjour.
Historienne d'art, vous avez écrit des livres importants sur Christian Boltanski. Vous avez été directrice adjointe du Musée national d'art moderne et vous dirigez aujourd'hui la Fondation Giacometti à Paris. Et puis nous rejoindrons en deuxième heure Marine Karmitz, le producteur de cinéma, la psychanalyste et pédopsychiatre Caroline Eliachef. Et nous irons retrouver Delphine Horwiller, femme rabbin que vous souhaitiez rencontrer. Est-ce qu'il y a un fil entre tous ces invités ?
Pour moi, c'est l'idée d'abord de la transmission, de la possibilité de la transmission dans différentes cultures, parce qu'elle n'est pas la même au Japon et en Occident, de liens que je vois entre, je suis souvent en Asie, entre une tradition des peut pas dire des religions, mais des croyances asiatiques et de la religion juive, qui pour moi, par une sorte de hasard, parce qu'il n'y a jamais eu aucun lien, sont assez proches. Tout cela serait des questions sans réponse, mais c'est des questions que j'aimerais poser, savoir comment on peut transmettre, qu'est-ce que c'est qu'on transmet, comment on transmet, et enfin, ce qui est notre vie à tous, qui est de rechercher sans jamais trouver, et en sachant qu'il ne faut jamais trouver.
Oui, parce qu'imaginez que vous trouviez un jour.
Ceux qui pensent avoir la réponse sont déjà extrêmement dangereux.
Vous changeriez de métier.
Et donc, la seule chose qui est intéressante, c'est de chercher en, en sachant qu'il n'y a aucune réponse.
Ryoko Sekiguchi, vous qui écrivez des livres désormais en français depuis quelques années chez POL, vous n'écrivez plus en japonais, vous n'êtes plus traduite, mais vous écrivez. La transmission, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Alors, avec Christian, c'est surtout l'histoire des fantômes qui nous unit, parce que j'ai écrit des voix, à la fois une fois des enfants morts-nés, et une autre fois, les Japonais qui ont été enfin massacrés et qui a hanté un musée, enfin une maison qui est devenue un musée. Et c'est vrai que l'histoire des fantômes et la cuisine, je pense déjà que la cuisine est remplie et hantée des fantômes, parce que vous savez, quand vous faites un plat que votre grand-mère avait, vous avez toujours fait, c'est les mains de votre grand-mère qui revient. Et en fait, vos mains deviennent les mains de fantômes. Donc, je pense que les gestes qu'on prend, enfin, tous les jours, mine de rien, est toujours superposé.
On serait dans la répétition, alors, de choses qui ont existé avant nous.
Oui. Je pense que, voilà, la transmission, déjà là, en fait, la transmission, c'est la présence des fantômes pour moi.
Il y a des fantômes dans votre vie, Christian Boltanski?
Je pense qu'on est entouré constamment d'esprits et que nous vivons avec ces esprits. De même qu'on a un visage qui est fait par nos ancêtres, c'est-à-dire qu'on a le nez d'un arrière-grand-père et les yeux d'une arrière-grand-tante.
Oui, sans le savoir donc.
Sans le savoir. Notre visage est un puzzle de tous ces gens. Je pense que notre esprit est fait par tous ceux qui nous ont précédés. En tout cas, je suis persuadé que j'ai une connaissance que je n'ai pas apprise, mais qui m'est donnée par mes ancêtres. Mais pour reparler de la cuisine, je crois effectivement que la cuisine est peut-être la dernière chose qui se transmet. On se souvient presque tous d'un plat que faisait notre grand-mère. Et je trouve ça très très beau quand des gens disent une recette. Et quand on discute des variantes sur une recette. Non, il faut pas mettre le sel d'abord, il faut mettre d'abord le poivre et le sel, on le remet après. Et chacun rejoue cette scène, et qui est sans doute une scène liée à l'enfance, et qui est donnée par la transmission.
Votre grand-mère, Christian Boltanski, qu'est-ce qu'elle faisait qui vous a marqué et que vous aimez manger à nouveau?
Naturellement, le borscht.
C'est votre Madeleine de Proust.
C'est ça, Madeleine de Proust. Voilà. Mais, alors là, il y a du vinaigre, il y a du chou. Alors ma grand-mère allait chez le pharmacien chercher une sorte d'acide mystérieux qu'elle mettait dans la soupe. Mais ça s'est perdu.
Je demandais à votre neveu si lui aussi, il a des Madeleines de Proust liées à la culture juive de l'Est, peut-être.
Oui, j'ai à peu près les mêmes madeleines qui sont un peu lourdes à digérer d'ailleurs, mais il y avait les côtelettes Pojarski. C'est un peu comme dans le Père Noël est une ordure, c'est quelque chose qui est un peu roulé sous les aisselles, mais
tu le fais bien. La boulette dans la cuisine, une chose extrêmement importante comme ça. Et effectivement, ça, je sais faire aussi les boulettes. Oui, aussi.
Vous nous en enverrez. Hein, on dégustera ça dans les prochains grands ateliers.
Mais pour revenir au Japon, oui. Ce qui m'étonne toujours,
c'est que vous aimez tant, vous y avez passé des vacances
Je n'étais pas en vacances, j'ai travaillé. Pardonnez-moi. Je ne prends jamais de vacances. Le mot vacances, c'est un mot que je. Bon, je travaillais très, très durement.
Vous dites la même chose du mot travail, vous dites que vous ne travaillez pas.
Je ne travaille pas, je ne travaille pas en vacances non plus. Mais les Japonais, qui sont des gens très, très peu religieux, il me semble, vivent avec des fantômes. C'est que les fantômes n'ont pas du tout une place comme ici qui est éloignée de nous. Il est parmi nous.
Mais racontez-nous cette fête, fête des morts au Japon.
Bien sûr. Donc cette fête qui est entre...
Comment elle s'appelle?
Obon. Et entre 13 et 16 août, c'est le congé payé pour les fantômes. Enfin, pour les fantômes, pour nos morts. Et donc, la porte des enfers, du paradis s'ouvre et qu'ils reviennent et qu'ils sont là justement avec nous pendant 4 jours.
Alors on leur fait à manger?
On l'a fait manger, bien sûr. Justement, c'est l'occasion où chacun se souvient de ce que son oncle, sa tante ont aimé. Donc, on refait un peu les plats.
Les plats familiaux.
Qu'ils faisaient. Donc, c'est aussi là, l'occasion de se retrouver. Donc, c'est la grande réunion familiale. Donc, et les vivants et les morts se retrouvent.
Moi, j'ai le culte des ancêtres. Mais je pense que c'est une chose qui est vraiment la chose la plus générale au monde. Je pense que pratiquement tous les humains ont le culte des ancêtres. C'est-à-dire l'idée qu'il y a eu des gens avant nous. J'aime beaucoup mon chat, mais la différence entre moi et mon chat, qui est tout à fait remarquable, mais elle ne sait pas qu'il y a eu des chats avant elle.
C'est la conscience, quoi.
Oui, c'est savoir qu'on est à l'intérieur d'une chaîne. Et alors, ce qui me semble aussi assez intéressant au Japon, c'est que je crois que ceux qui reviennent sont ceux qui ont été très malheureux, non, ou tous reviennent.
Pour les fêtes, enfin pour les congés annuels, tout le monde peut revenir.
Tout le monde peut revenir.
Après, il y a des gens qui restent parce qu'ils ne voulaient pas partir. Donc ça, c'est peut-être ceux qui ont été très malheureux.
Qu'est-ce que vous avez fait récemment pour vos fantômes, Ryoko Sekiguchi?
Alors, je fais souvent le dîner pour les fantômes. Et donc pour Centre Pompidou, j'ai monté un événement qui est le banquet fantôme, pendant lequel il y a ces intervenants qui parlent des fantômes au Japon. Et il y a un chef qui prépare à chaque fois un dîner qui a un rapport avec sa part d'ombre de l'histoire du Japon.
La BO de Furio, ce film d'Oshima en 1983 avec Bowie, musique de Sakamoto. Catherine Grenier, je vous dis à nouveau bonjour et bienvenue. Vous avez décidé de vous intéresser à Christian Boltanski il y a un petit moment. Vous avez écrit beaucoup sur lui, vous l'avez vu grandir, si je puis dire, surtout.
Disons que c'est lui qui m'a vu grandir. Mais je ne veux pas te vexer, Christian. Mais j'ai rencontré en effet Christian Boltanski et Annette Messager, alors que moi-même j'étais très jeune, j'étais encore étudiante. Et je crois que ça a été très très marquant pour moi. Et c'est bien entendu du fait de cette connivence très ancienne et de cette fréquentation que j'ai pu écrire beaucoup sur Christian Boltanski, qu'on a pu faire ensemble. Un livre qui était un livre d'entretien où il se livrait beaucoup.
Passionnant, la vie possible de Christian Boltanski au Seuil.
Mais ça a été au-delà, c'est-à-dire que par Christian, j'ai réfléchi à mon propre métier. On parle de transmission. Bien sûr, le métier d'un conservateur de musée, c'est de transmettre. Et puis, au moment même où je faisais mes études, apprenant l'histoire de l'art, eh bien, j'allais chercher sur les bancs de l'université ou de l'école du Louvre la transmission de ce qu'ont été les grands maîtres, de ce qu'a été l'histoire de l'art. Et le fait de fréquenter des artistes, dès ce moment-là, m'a éclairé beaucoup. Parce que les artistes ont une autre conception de la transmission et peuvent nous apprendre beaucoup en termes de transmission, y compris savante. Par exemple, Christian Boltanski, comme Annette Messager à l'époque, s'intéressait beaucoup au surréalisme, qui à l'époque était un mouvement assez déprécié, en tout cas pour moi, pour ma génération.
Christian Boltanski vraiment, a connu à 14 ans André Breton.
Voilà. C'était déprécié parce que c'était un mouvement de peinture figurative et que c'était jugé à ce moment-là pas aussi radical que le mouvement Dada et que c'était beaucoup passé de mode d'une certaine façon. Il s'intéressait beaucoup à l'art brut, à l'art des fous, à l'art... Et ça, d'une certaine façon, un peu révolutionné mes catégories, celles que j'étais en train d'apprendre. Et ça m'a appris à élargir mon spectre artistique. Bien sûr, la fréquentation d'un messager m'a aussi incité à regarder beaucoup les artistes femmes qu'on regardait moins à l'époque. Donc, par la fréquentation des artistes, finalement, j'ai appris différemment et j'ai vécu différemment la transmission.
C'est beau ce que dit Catherine Grenier à son ami et à l'artiste Christian Boltanski. Il est en train de vous dire merci, monsieur Boltanski.
Je crois très très peu au progrès de manière générale et très très peu au progrès dans l'art. L'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il était il y a 25 ans. Et je pense que pour comprendre l'histoire de l'art, il faut regarder les artistes d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a guère de changements. Les questions sont posées sont toujours les mêmes. Il y a extrêmement peu de questions dans l'art. Il y
en la mort.
Comme ça, il y a la mort, la recherche de Dieu, le sexe, la beauté de la nature. Enfin, il y a toujours les mêmes questions et les mêmes sujets. Et forcément, les mots pour parler de ces sujets sont différents aujourd'hui ou il y a 300 ans. Et je sais pas, la jalousie existe toujours, mais on n'emploie plus des alexandrins pour dire la jalousie comme Racine pouvait le dire. Mais le sentiment de jalousie est le même. Et donc, je pense que pour un historien d'art, de regarder les artistes vivants est très intéressant parce qu'en fait, c'est la même chose et les mêmes questionnements. Mais on parle pas de la même manière. Moi, j'ai utilisé la vidéo, la photographie, photo. Le son. Finalement, tout ça n'est pas différent.
Vous êtes d'accord avec ça, l'historienne d'art que vous êtes, Catherine Grenier?
Absolument. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qui maintenant, heureusement, est de plus en plus partagé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre l'histoire de l'art comme une succession de projets qui seraient des projets qui viendraient se substituer à d'autres et invalider les précédents et rendre finalement peu intéressant ce qui s'est passé avant parce que tel mouvement déboucherait sur un autre qui serait encore plus moderne, qui débouchera sur un autre qui est encore plus moderne. Cette pensée-là d'une œuvre d'art qui va en évoluant est une pensée qui a été très forte au début du XXe siècle. Il y a certainement eu un effet très bénéfique sur les avant-gardes, mais qu'il faut beaucoup relativiser. Et je crois que la fréquentation des artistes permet de relativiser beaucoup la question de la transmission, justement, aussi. C'est-à-dire, quand on regarde comment les artistes eux-mêmes transmettent, comment ils parlent de la transmission, eh bien, on voit immédiatement chez eux que la transmission n'est jamais une transmission qui peut être rigoureuse, que c'est pas une science exacte, qu'on transmet jamais exactement. On recrée ce qu'on transmet, on rajoute, on actualise et on fait rentrer finalement dans cette transmission beaucoup de subjectifs. Mmh. Et c'est ce qui permet de transmettre. C'est vraiment ça qui permet de transmettre.
Christian Boltanski dit souvent qu'il a répété des choses dans sa carrière et qu'il n'a... Il a évolué un peu, mais pas beaucoup. Vous êtes d'accord aussi avec ça?
C'est tout à fait vrai. Il a évolué un peu, mais pas beaucoup. Mais c'est ce pas beaucoup qui est important. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose en même temps. Donc il a répété des choses Et c'est jamais la même chose. C'est pareil pour les recettes de cuisine. Finalement, quand on dit on a une sorte de tribut qui est donnée au passé avec le souvenir de vieilles recettes, etc., c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans la tradition du passé. Mais on les interprète chacun différemment. On rajoute des choses. Christian, il met de la crème dans le caviar d'aubergine. C'est un crime. Mais en même temps, c'est sa façon à lui de le faire et qui fait que lui, artiste, il va pouvoir créer un plat qui est un plat tout à fait traditionnel et dont il va avoir le souvenir qui va le relier à une histoire. Et ça, je crois que c'est très, très important parce que, là encore, ça vient en contradiction avec cette idée de la transmission qui serait une transmission qui devrait être fidèle.
Oui, d'une part, je pense que dans la vie d'un artiste comme moi, c'est comme quelqu'un qui aurait fait un voyage. Et puis ce voyage, il peut le raconter de manière différente. Il peut le raconter par le paysage, par les gens qu'il a rencontrés, par les plats qu'il a mangés. C'est toujours le même voyage, mais selon le stade de la vie, on regarde ce voyage de manière différente. Donc, en tout cas pour moi, au départ, il y a un voyage, ce que j'appelle un trauma, et puis toute sa vie, on va regarder ce voyage et en parler de manière différente selon l'âge qu'on a. Et donc, il y a en même temps aucun changement, et je pense vraiment, en tout cas dans mon cas, que j'ai eu extrêmement peu d'idées dans ma vie, que s'il y a eu quelques nouvelles éléments qui sont entrés dans ma vie, ça a été des éléments qui ont été très liés à des périodes cruciales de mon existence, c'est-à-dire effectivement quand je suis devenu adulte, tardivement, vers 22-23 ans, où j'ai eu un moment de création, quand j'ai perdu mes parents, et quand je suis devenu très vieux. Et donc, en étant très optimiste, je pense que j'ai eu 3 moments de création, ce qui est déjà énorme.
Vous êtes devenu très vieux quand ?
Oh, il y a une dizaine d'années.
Vous aviez 63 ans, alors.
Oui, à peu près, voilà. J'ai très bien, voilà. Non, mais j'ai décidé de devenir très vieux.
Quoi. Cela dit, à ce moment-là, vous commencez le monumental.
Oui, les premières années étaient beaucoup moins visuelles. À la mort de mes parents, j'ai commencé à faire des œuvres. Et puis, quand je suis devenu très vieux, j'ai fait des très grandes installations éphémères qui sont toujours détruites après. Et je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là au théâtre et au théâtre musical. Et à cette idée de la disparition d'une œuvre et d'une œuvre qu'on peut répéter et répéter d'une autre manière.
Le Grand Palais sur les bords de Seine, c'est majestueux, mais sous la verrière, il règne une curieuse atmosphère et des battements de cœur en bruit de fond. La semaine dernière, c'était encore le chantier. On construisait une pyramide de 10 mètres de haut, un empilement de vieux vêtements. Cette grue est l'évocation du doigt de Dieu. Le vêtement est pris au hasard, le hasard de la mort, et devient un esprit, un fantôme. Au sol, les vêtements sont bien rangés. Peut-être un cimetière, le vestige d'un camp de concentration, une esplanade après une explosion, c'est aux visiteurs de décider.
Catherine Grenier.
Surtout, il a conçu et il a introduit dans la création contemporaine un élément qui est très très important, qui est le fait de dire l'œuvre, c'est pas seulement les objets que vous avez regardés, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la mise en condition du spectateur dès l'entrée dans la première salle du musée ou de l'espace qui reçoit l'œuvre. Au-delà même de cet effet, il y a cette prise en compte qu'on n'est pas devant une œuvre, on est vraiment dans une œuvre.
Oui, ça compte pour vous. Vous voulez plus qu'on soit devant, oui. mais dans.
Pour moi, il est extrêmement important d'être dans l'œuvre et de faire partie de l'œuvre.
C'est assez récent, ça.
Ça date de ma vieillesse.
De votre très grande vieillesse.
Voilà. Et donc, par exemple, le fait qu'il fasse froid faisait que la plupart des gens gardaient leur manteau et leur lourd manteau, et qu'en dehors de cette grande montagne de vêtements, il y avait au sol des vêtements que les gens regardaient, donc baissaient la tête, et que les spectateurs devenaient des acteurs de l'œuvre.
Et certains avaient des malaises.
Et certains...
C'est vrai, Catherine Grenier, vous vous souvenez ?
Oui, tout à fait, parce que, comme je le disais, quand on transmet et quand on reçoit une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art, c'est une partie de l'artiste qui nous est transmise, eh bien, on interprète. Et donc, les gens interprétaient, bien sûr, tout ça, ressentaient physiquement. Et par exemple, les bruits du cœur que nous avons entendus tout à l'heure et qu'on a assimilé à un très beau projet humaniste de garder en vie tous les cœurs de la Terre. Hein, c'est ça le projet à l'origine. Les gens ne les ressentaient pas du tout comme ça. Ils entendaient les trains allant vers Dachau. Beaucoup de gens entendaient le roulement des trains, ça nous a été dit très très souvent. Donc donner un aspect extraordinairement dramatique à ce qui aurait pu être au contraire extraordinairement chaleureux et humain.
Et donc, c'est toujours celui qui, c'est Duchamp qui dit ça, mais c'est toujours celui qui regarde l'œuvre, qui termine l'œuvre. Pour moi, cette œuvre, personne était liée au hasard et au doigt de Dieu. C'est-à-dire, cette grue aveugle, avec cette énorme pince, prenait ses corps et les rejetait totalement au hasard. Et pour moi, c'était la notion vraiment qui m'a toujours passionné du hasard. Mais d'autres gens le voyaient d'une manière tout à fait différente. Et moi, dans mon activité, j'admets seulement toute lecture qui peuvent être faites. Je veux dire, si des enfants disent c'est tellement joyeux, il y a plein de couleurs à cause des vêtements, j'en suis enchanté. Et je pense que la beauté peut-être de mon domaine, c'est qu'il n'est pas précis. Et dans mon cas, un chapeau peut être un chameau. Et chacun peut relire avec son propre désir.
Mais il y a toujours un surréaliste en vous, alors ?
Non, c'est du réalisme, parce que j'envoie une sorte de stimulus, et chacun va, par rapport à ce stimulus, reconstruire une chose totalement réaliste, qui est sa propre histoire. Mmh. Et par exemple, dans les images photographiques que j'ai utilisées, je ne fais pas de photos moi-même, mais j'utilise des photographies, je fais toujours que les visages soient flous, pour que chacun puisse reconnaître son cousin, son oncle, son grand-père, sa sœur.
Des projections d'une certaine manière, oui.
Et donc si quelque chose est trop net, ça ne fonctionne plus.
Christian Boltanski, je voudrais qu'on parle d'un artiste qui compte beaucoup pour vous, toujours encore aujourd'hui, même s'il a disparu, c'est Giacometti, Alberto Giacometti. On va se rendre, madame la directrice de la Fondation Giacometti, Catherine Grenier, à l'Institut Giacometti, dans le quartier Montparnasse, à Paris. Il se trouve dans un petit hôtel particulier dans lequel on a recréé, reconstitué l'atelier du sculpteur, atelier dans lequel il a passé 40 années de sa vie. Dans les salles suivantes, une cinquantaine d'œuvres de sculptures, de dessins, de peintures évoquent le sculpteur et le poète Jean Genet. Alors on va sur place avec Vinciane Lomonier, en compagnie d'Hugo Daniel, chargé de mission culturelle et scientifique à l'Institut Giacometti.
J'ai commencé par faire la peinture, très jeune, et assez vite la sculpture. Et depuis, j'avais toujours le besoin de faire les deux.
Alors là, on est devant l'atelier, et on a un peu cette impression de capharnaüm, de toile, de statue, de tête, dans un tout petit espace en fait, c'est un peu comme une coquille.
L'atelier que Alberto Giacometti a occupé pendant plus de 40 ans était effectivement un espace très restreint, à peine 27 mètres carrés. Et dans la reconstitution que vous avez ici, on a cette idée de foisonnement, de cohabitation d'un ensemble d'œuvres extrêmement variées. Tout cela dans un espace restreint dans lequel on présente les murs que l'artiste avait ornés de dessins, peintures, gravures, à même donc le plâtre de cet espace.
Donc là, ce sont les murs de son atelier qui ont été récupérés.
Ce sont des fragments de ce mur qui ont été déposés par sa veuve Annette. On a recomposé en quelque sorte le puzzle de cet atelier mythique.
Alors on voit son chevalet, une armoire, des étagères, un lit aussi, avec un matelas.
Tout ce qui est présenté là sont des documents authentiques.
Forcément des pinceaux, des lunettes, deux paires de lunettes, des mégots ici qui sont laissés dans un cendrier.
Il y a même, si vous voyez là-bas, une sorte de petite console très modeste en bois qui l'a suivi tout au cours de sa vie, de sa carrière.
Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que tout paraît modeste ici, alors qu'il a gardé son atelier jusqu'à la fin, quand il a commencé à être reconnu, à être aussi plus riche.
C'est que cet espace était un espace extrêmement important pour lui, autant un espace physique qu'un espace mental propice en quelque sorte à cette création.
Et on voit ici un homme qui marche, la structure, le squelette finalement.
C'est ça, c'est un document assez rare, c'est une esquisse de l'homme qui marche en plâtre, réalisée en 1960. Une partie des membres n'est pas parfaitement achevée. On entre là, par ce qui est peut-être l'une des œuvres les plus connues désormais de l'artiste, dans une forme d'immédiateté de la création, dans laquelle les étapes achevées ou inachevées cohabitent.
On avance.
Depuis des années, ou depuis toutes les dernières années, je ne fais toujours que le même sujet, à peu près, n'est-ce pas, monotone, en essayant toujours la même chose et me limitant de plus en plus à un détail, comme un nœud qu'il faudrait défaire, ou on le défait et on avance, ou sinon on est absolument perdu.
Alors ici on est dans le cabinet d'art graphique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins d'Alberto Giacometti. On ne pense pas forcément à ça au début quand on pense à lui.
La Fondation Giacometti de Paris conserve la collection la plus importante des œuvres de l'artiste. Plus de 2000 dessins, plus de 2000 estampes et plus d'une centaine de carnets.
C'est vrai qu'on a l'impression en fait que c'est un musée un peu en miniature avec plein d'alcôves, plein de petits recoins ici où on rentre et on vient observer les œuvres.
Les espaces de taille modeste, ils nous permettent d'être au plus près des œuvres. L'ensemble des salles, on l'espère, fonctionne dans une forme d'harmonie idéale où on peut passer du cabinet graphique à la fois espace d'exposition et lieu de la recherche pour revenir finalement à l'atelier ou à une salle d'exposition. Alors, on se trouve sous la verrière de l'ancien atelier de Paul Follot. On fait face aux Femmes de Venise, qui est un groupe de sculptures qu'Alberto Giaconetti a réalisé pour la Biennale de Venise de 1956.
Ils font à peu près un mètre de haut.
Cela leur confère une forme de fragilité, qui est accentuée par les traits longilignes caractéristiques des figures de Giacometti après-guerre.
Fragile, gracile même, mais il y a un côté très droit et...
Évidemment hiératique. Cet ensemble, il est présenté dans l'exposition inaugurale car Jean Genet est venu dans l'atelier d'Alberto Giacometti au moment où Giacometti réalisait ses Femmes de Venise et il a été frappé par leur caractère solennel notamment. Ces expositions, la prochaine, après l'atelier d'Alberto Giacometti vu par Jean Genet, est consacrée au regard d'Annette Messager sur l'œuvre d'Alberto Giacometti. Annette Messager a en effet, assez tôt finalement, dans son œuvre, fait référence, mentionné l'œuvre d'Alberto Giacometti et on l'a invité à prolonger ce regard en présentant ses œuvres ici à l'Institut Giacometti.
Voilà, l'Institut Giacometti, vous y étiez avec nous. Christian Boltanski, vous aimez déjà ce lieu?
C'est un lieu merveilleux parce que c'est un lieu qui est habité. La plupart des musées, c'est des white coupes, comme on dit. C'est un endroit qui sont neutres, comme ça. Et là, le fait que c'est comme une sorte d'appartement, évidemment, c'est dans le 14e, là où il y avait l'atelier de Giacometti, qui est reconstitué. Mais cet hôtel particulier, sans doute 1930 ou une chose comme ça.
1912,
est vraiment un lieu à habiter. Et donc on a l'impression d'être chez quelqu'un, et donc on peut imaginer qu'on est chez Giacometti, même si c'est pas vrai du tout. Et puis, il y a, dans cette première exposition, il y a beaucoup de plâtres, et qui sont pour moi ce qu'il y a de plus beau chez Giacometti à cause de la fragilité, souvent un peu cassée. Où on voit encore le fil de fer qui, dans la jambe, qui n'a pas été, où le bout de plâtre est parti. Et tout ça est extrêmement émouvant. Je crois que si Giacometti est tellement aimé aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'effectivement c'est extrêmement beau et que ça montre l'humain là, en même temps dans son importance et dans sa fragilité. Mais c'est aussi parce que Giacometti, dans toute sa vie, a une vie exemplaire. C'est-à-dire que il y a une sorte de modestie du lieu qu'on voit qui est vraiment pratiquement rien. C'est vraiment une petite chambre où il travaillait tout seul. Et puis, modestie dans le fait qu'il emmerdait, je crois, tout le monde en disant « j'ai encore raté, faut que je recommence ».
Ah ben ça, c'est un point commun avec Christian Boltanski, Catherine Grenier.
Ah oui, oui, tout à fait. Giacometti est vraiment quelqu'un qui a toujours pensé qu'il fallait faire mieux, qui est jamais sûr de lui. Il est sûr de sa trajectoire, ça oui, c'est ce qui l'incite à continuer tout seul dans la solitude de son atelier, en marge de tous les courants artistiques, de pas vouloir s'assimiler à un courant. Et à l'époque, le courant artistique dominant, c'est l'abstraction. On a dit de lui à l'époque qu'il était d'arrière-garde. Mais par contre, dans l'exécution du portrait, puisqu'il travaille la figure humaine, eh bien, il n'est jamais satisfait. Et il dit, et c'est ça qui est très important, que l'échec non seulement est constitutif de l'art, de la création, du processus de création, mais qu'en plus, c'est ce qu'il ramène tous les jours à l'atelier. C'est le fait d'avoir échoué qui fait qu'il a envie de revenir à l'atelier le lendemain.
Et pourtant, il a du succès de son vivant.
Il a du succès de son vivant à la fin de sa vie. Pas toujours, il a été très pauvre. Il a été pendant plus de 15 ans très très pauvre, Giacometti, puisqu'il a tout d'abord été un sculpteur surréaliste acclamé, avant de quitter très très vite le mouvement et de revenir à une pratique donc du travail d'après-modèle qui avait plus cours du tout et qui l'a isolé non seulement des rangs des avant-gardes mais aussi des collectionneurs. Donc il a eu une reconnaissance tardive, tout d'abord aux États-Unis, mais en France, à sa mort, donc il avait 65 ans, il n'avait jamais eu une exposition dans un musée ou une institution, hein, hormis les quelques expositions à la Galerie Mac, donc dans sa galerie marchande. Ça ne le troublait pas du tout, c'est ce que disait Christian Boltanski, c'est-à-dire que le fait qu'il n'ait pas cette reconnaissance institutionnelle n'avait aucune importance pour lui. L'argent qu'il a gagné à la fin de sa vie n'avait absolument aucune importance. Il souhaitait absolument pas changer son train de vie, son cadre de vie. La seule chose qu'il souhaitait, c'est pouvoir aller chaque jour à l'atelier parce que chaque jour, il considérait qu'il avait raté et qu'il allait faire mieux.
Si je veux visiter le lieu, comment je fais ?
Vous réservez sur Internet parce que le lieu n'est pas très grand. Et ce que nous voulons absolument, et ce qui est, je pense, très touchant dans le lieu, c'est offrir aux visiteurs une proximité très grande avec les œuvres, une intimité. Et donc, nous devons limiter le nombre de personnes qui rentrent dans l'espace et réguler le flux des visiteurs tout au long de la journée. Donc, il suffit de réserver. Vous réservez d'une demi-heure sur l'autre. Et puis, vous vous présentez, vous ne faites pas la queue et vous êtes accueilli.
If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles. Thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. The doctor said I was like my past. He said I was finally free. Taking the jump, took the lead. I need you to believe. I'm a woman of my world, not having you heard. My words the only thing I've needed. I'm a woman of my world, now you have heard. My words the only thing I truly need. Woman, 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 woman.
Power et Lana Del Rey sur France Inter, c'était Woman. Christophe Boltanski, journaliste, vous avez dirigé la revue 21, écrivain, vous écoutez votre oncle avec beaucoup de sérieux.
C'est toujours intéressant ce qu'il dit. Mais aussi avec... mon oncle est aussi très lié à mon enfance. Quand j'étais petit, on jouait beaucoup ensemble. Et donc, il m'a appris très tôt... cette continuité entre le sérieux et le ludique.
C'est ça la transmission entre vous deux ? De lui à vous ?
Je pense que oui, ça doit être. En tout cas, ça, c'est une transmission très importante. C'est-à-dire que on jouait, on fabriquait des choses ensemble et lui continuait à fabriquer des choses qui devenaient des œuvres d'art. Et c'était vraiment une sorte de continuum entre le monde des adultes et le monde de l'enfance.
Nous avons beaucoup joué aux petits soldats en plastique comme ça. Et ça m'a beaucoup appris pour l'art que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire que un tapis devient une mer infranchissable, parce qu'on joue par terre, une chaise devient une grosse montagne. C'est très intéressant par rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'on recrée un espace où on est assis par terre, et on a ces petites figurines, et on dit il faut 5 jours pour traverser la chambre. Et donc, ça m'a sûrement fait comprendre beaucoup de choses par rapport à une installation.
Vous avez un peu utilisé cet enfant.
J'ai même fait pire. C'est-à-dire que quand il était alors là tout petit, j'allais dans sa chambre lui piquer ses affaires pour les exposer.
Et les vendre.
Et donc ça le rendait absolument furieux parce que c'est genre, je sais pas, il faisait un petit avion en bois, je le prenais, je le mettais dans une vitrine. Et alors il avait à ce moment-là horreur de l'art et je lui disais, tu seras plus tard, tu vas t'occuper de mon art. Et ça disait, non, je veux pas ça.
Parce que rends-moi mes jouets, mes vêtements.
Mais nous avons continué à jouer pour moi jusqu'à une période, j'étais un peu retardé. Et jusqu'à, je sais pas, quand j'avais 25 ans ou une chose comme ça, 24 ans, et on jouait toujours comme ça, à inventer des histoires dans les chambres, des bateaux, des trucs comme
ça. Mais il avait une imagination incroyable, votre oncle.
Ah oui, tout à fait. On constituait des petits mondes, on reconstituait des villes en sucre, souvent des villes bombardées d'ailleurs.
Oui, c'était quand même un peu souvent lié à la guerre. Mais... Et alors, un jour, quand il devait avoir déjà, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, il me dit, écoute, Christian, j'ai qu'une demi-heure, mais si tu veux, on peut jouer. Et alors là, j'ai compris que c'était fini, parce que je me suis dit, comme si c'est vraiment, c'était pour me faire plaisir. Écoute, Christian, je suis très occupé, mais si tu veux, je peux te donner une demi-heure. Et donc, j'ai arrêté.
Je suis content qu'on sourie avec vous dans votre grand atelier, parce qu'on pense toujours à artistes de la disparition de la mémoire, la Shoah très importante dans la vie et l'œuvre de Christian Boltanski. Or, c'est un bon vivant, c'est bien de le dire aussi, votre oncle.
Oui, tout à fait. Mais le lieu où j'ai grandi, qui est cette maison...
La rue Grenelle, où
Christian avait son atelier, était un lieu très très joyeux, très foutraque et très très joyeux. On riait beaucoup.
Ce qu'il y a, c'est que je crois que ce qui a été un modèle dans cette maison, c'est le fait que nous étions tous un peu fous. On vivait dans un monde un peu étrange, mais qu'il n'y a pas de normalité. Et moi, c'est une chose qui m'a aussi beaucoup appris, c'est que je pense que ce qu'on appelle la normalité ne veut rien dire. Et que si on arrive à être plus ou moins heureux, moi j'ai passé une enfance très heureuse.
Sans aller à l'école,
parce que je refusais d'aller à l'école, je ne marchais pas dans la rue.
Et vos parents disaient d'accord.
Oui. Et j'ai marché seul dans la rue pour la première fois à 18 ans. Donc toutes ces choses qui peuvent paraître étranges. Mais finalement, ce que je suis devenu, c'est grâce à cette enfance. Donc je ne peux pas être contre cette enfance. Cette enfance m'a fabriqué.
Et vous n'avez pas voulu d'enfant ?
Alors, pas voulu d'enfant, oui. Mon activité d'artiste fait que on ne sait pas quand est-ce qu'on devient adulte. Je le sais vaguement. Mais dans un autre métier, on fait des études, puis un jour on se dit on va s'installer. Moi je suis, dans ma tête, exactement semblable que quand j'avais 20 ans. Donc des enfants, oui, mais dans 15 ou 20 ans, plus tard, nous verrons. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai jamais pu m'installer. Et je ne suis pas installé, je vis dans un lieu qui est comparable à l'atelier de Giacometti dans sa saleté, si je puis dire.
Je l'ai vu il y a 6 ans pour l'atelier de Christian Boltanski et je vous le confirme.
Je me suis jamais installé. Donc je pense que d'avoir des enfants veut dire une sorte d'installation. Alors, je me dis que la transmission que je peux faire, ce sera par les histoires que j'ai pu raconter. C'est pour ça d'ailleurs que je suis aujourd'hui dans cette émission, c'est que je crois qu'il est important de rencontrer des gens. Et que la beauté de la radio, j'aime beaucoup la radio comme moyen, parce qu'on fait autre chose en même temps, on fait justement la cuisine, on fait quelque chose.
On conduit.
On conduit, puis on entend une voix. Et on a l'impression d'avoir un peu rencontré quelqu'un. On peut dire que ce type était vraiment un con, mais on a l'impression un peu de l'avoir rencontré. Et là, c'est une manière de transmettre des choses d'une manière extrêmement légère.
Mais vous avez transmis à votre neveu, Christophe Boltanski, écrivain chez Stock, auteur de La Cage, qui a raconté cette famille rocambolesque et romanesque, la famille Boltanski que vous citiez à l'instant. Vous lui avez transmis le goût, justement ce goût de transmettre à son tour. Vous êtes journaliste, vous avez raconté des histoires, et puis vous avez raconté votre famille. Et là, vous racontez votre mère dans Le Guetteur, qui fait partie de la rentrée littéraire. La Cage, c'est-à-dire cet endroit où le père de Christian Boltanski était caché par sa mère pour échapper à la rafle. Vous avez mis du temps à oser la raconter, cette histoire.
Je pense que cette histoire, je l'ai toujours... elle était tout le temps en moi. Donc,
il a fallu qu'elle sorte.
Mais à un moment, oui, elle est sortie. Pour plein de raisons, je pense. Sans doute, d'ailleurs, même liée à l'histoire de ma mère. Mais ça nous entraînerait peut-être... trop loin, parce que je me suis aperçu que ma mère voulait écrire, qu'elle voulait être romancière. Et ça, je pense que ça a été quand même un élément déclencheur. Je crois que c'est le philosophe Lévinas qui dit tout le temps que le fils réalise les promesses inachevées du père. Et dans la transmission, il y a aussi ça. On transmet ce qu'on a fait, mais aussi ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait eu envie de faire.
Ouais, l'objet du guetteur. Hein. Vous avez enquêté pour savoir finalement qui était cette mère qui écrivait sans que vous le sachiez. Il y a beaucoup de non-dits dans la famille Boltanski?
Je crois qu'il y a des non-dits dans toutes les familles. Les familles ne sont remplies de silence, de mutisme, aussi de mensonges, de mythes, de choses qu'on a totalement inventées ou réinventées. Et ça, c'est ça qui m'intéressait, en tout cas, dans raconter l'histoire de cette famille en respectant
dans la cache,
ces éléments disparates, ces éléments fragmentaires et aussi ces silences. Pour moi, c'est important, enfin, dans ce que j'écris, de respecter les silences des autres.
Ne pas tout dire.
Ne pas tout dire.
Moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que nous sommes tous très très vieux, enfin, c'est un fait, et donc cette histoire va disparaître avec nous.
L'histoire de votre père caché, de vous, famille, Christian, de nous, conçu voilà. Dans cette cache.
Et heureusement, Christophe a fait survivre pendant quelque temps, pas pour toujours, mais pendant quelque temps, cette histoire. Et ça, c'est une très grande joie pour moi de penser que cette histoire ne va pas totalement disparaître. Mais je pense que peut-être être écrivain, c'est également essayer de sauver de la disparition. De sauver... Alors, être écrivain, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est à la fois, effectivement, comme il a fait pour cela, de sauver des vies de la disparition, mais c'est aussi reconstituer. Comme on dit reconstituer le crime. Les scènes de reconstitution policière sont une chose prodigieuse. Et là, c'est un peu la même chose. On réinvente des choses qui sont sans doute vraies, mais pas tout à fait exactement de la même manière. Et donc, tout ce travail à la fois de reconstitution et de recherche presque archéologique, parce que dans le cas de la cache, c'est pratiquement une chose archéologique. Hier, par hasard, parce que mon frère reprend l'endroit où mon père était caché. Et il bouge la cuisine de place. Et on a redécouvert la cache. Et j'ai fait une photo qui maintenant va être recouverte par des carrelages, je sais pas quoi. Donc c'était la dernière fois qu'on la voyait.
C'est la disparition de la cache.
Et j'ai fait une photo de ce trou pour au moins garder ça parce qu'ils ont enlevé leurs vêtements et il y avait en dessous la cache. Voilà.
À quoi vous avez pensé?
D'abord que c'était très petit, alors des choses physiques, vraiment, on la sent tellement petite.
Il s'est caché un an et demi, là.
Oui,
hein.
Inimaginable de vivre là. Et puis aussi que ce dallage qu'on allait mettre était comme une sorte de... Bon, c'est vraiment la fosse, et la fosse qu'on veut oublier. Et tant mieux, maintenant d'autres gens vont vivre là, ça va être une cuisine, mon frère va faire des spaghettis à l'endroit où son père était caché, et tant mieux, il faut ça, il faut toujours oublier.
Il restera un livre.
Mais il restera un livre.
Le voilà. Livre de Christophe Boltanski, La cache chez Stock.
Non, mais c'est vrai que le souvenir change toujours les échelles, et ça fait vraiment penser à ton art, c'est que les choses qu'on garde en tête comme énormes, immenses, sont en réalité, quand on les redécouvre, toujours beaucoup plus petites. Et c'est ce changement d'échelle effectué par le souvenir que je trouve aussi au centre de ce que...
Mais je pense que nous... À un moment, pour citer un livre de poèmes qui s'appelait Livenstein, qui s'appelait L'enterreur, je pensais que j'étais un enterreur. Et peut-être que tout artiste est un peu un enterreur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait là encore revenir. Je disais pour mes rétrospectives, je fais revenir, mais tout artiste fait revenir. Et pour un écrivain, peut-être une chose plus précise, dans mon cas, c'est des choses plus floues, mais c'est, de toute façon, c'est faire revenir.
Christophe Boltanski, merci d'être venu parler de votre oncle et avec votre oncle. Merci Catherine Grenier, bonne suite à la Fondation Giacometti. Je remercie aussi l'écrivain Ryoko Sekiguchi qui sort bientôt un livre chez POL, qui a un très beau titre, Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va. Travaillez bien, on se retrouve dans un instant pour la suite du grand atelier de Christian Boltanski, juste après les infos. Thank you. deuxième partie de votre grand atelier, Christian Boltanski. Tout se passe bien ?
Oui.
Il y a du bruit parce qu'on est au métro Saint-Paul, à Paris. Et nous, on attend qui, alors ? À votre demande, d'ailleurs.
On attend une des deux rabbines.
Delphine Horviller.
Voilà.
Que vous ne connaissez pas ?
Que je ne connais pas et que j'ai toujours désiré connaître.
Pour quelle raison ?
Parce que, comme toute personne, et spécialement mon âge, on a des questions. Je suis tout à fait un croyant, mais ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de questions. Et je pense, et c'est là où je voudrais l'interroger, c'est qu'on peut être religieux juif sans croire en Dieu. Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc,
La voilà.
Bonjour.
Merci d'être là.
Bonjour. Gentil d'être venu.
Ravi d'être là.
Vous étiez à Jérusalem, alors ?
Oui, j'ai passé quelques jours. Là, je suis revenue. Je viens d'arriver. Je me suis dit qu'on peut peut-être se promener dans la rue des Rosiers et trouver là-bas. C'est le cœur du Pletzel, là, le cœur de ce qui a été la vie juive.
Oui, mais qui n'existe plus aussi.
Non, mais il y a comme des traces, des résidus.
Vous avez quel souvenir de cette rue ? On est en plein dans la rue des Rosiers, là.
Chaque semaine, on allait acheter à manger énormément chez Goldenberg. Que mangeais chez une amie de mes parents et on amenait la nourriture et on se bourrait de cette nourriture que j'ai adorée et que j'adore toujours. Je crois que c'est une chose très particulière des juifs d'après-guerre. Alors ma mère, d'ailleurs je suis baptisé catholique, ma mère était chrétienne, mon père était converti et les juifs d'après-guerre, mes parents étaient plus ou moins communistes, enfin ma mère l'était, mon père l'était pas, et c'était en même temps très juif et en même temps pas du tout lié à la religion. Et j'ai un rapport très étrange, j'aime bien cette histoire de ma jeunesse. Un jour, mon frère, Luc, il me téléphone, il me disait, c'est Yom Kippour aujourd'hui, tu veux pas aller à la synagogue avec moi ? Et puis ça tarde, on se promène et tout ça, et puis quand on arrive, tout était fini. Il me dit, bon, écoute, on va manger une choucroute, je connais un bon restaurant à côté. Et c'est exactement ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a un vague désir qui n'arrive pas à se faire, et finalement, bon, c'est comme ça.
À la fois, moi, je vous ai entendu souvent parler de l'importance des questions, beaucoup plus que des réponses pour vous, voilà. Et ça, c'est quand même très, très juif.
Ah, j'ai une idée, mais qui est une idée un peu étrange, c'est que je pense que nos ancêtres sont en nous, et qu'on a une connaissance qui n'est donnée par nos ancêtres, et que moi, j'ai sûrement un rabbin en moi, et que j'ai une connaissance, et souvent mes amis qui, eux, connaissent la tradition, me disent, mais comment tu sais ça ? Et pour moi, c'est une évidence, alors que je ne l'ai pas apprise. En fait, là, ce dont je voulais parler avec vous, si je comprends bien, on peut être un bon juif sans croire en Dieu.
C'est vrai qu'il y a des milliers de blagues juives qui, chacune à leur manière, racontent ça, sous la forme d'une blague, mais en disant quelque chose de très sérieux, en réalité, qui est que le judaïsme suggère que Dieu n'en a pas grand-chose à faire de savoir si on croit en lui ou pas. Vous voyez, c'est le blague, vous connaissez peut-être, où les rabbins, toute la nuit, débattent, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas ? Et au petit matin, ils arrivent à la conclusion que Dieu n'existe pas. Ils vont se coucher, quelques heures plus tard, on les croise dans la rue, en chemin, on leur dit « Vous allez où ? » Ils disent « On va à la synagogue. » Alors on leur dit « Mais pourquoi vous allez à la synagogue ? Puisque vous avez conclu que Dieu n'existait pas. » Ce à quoi les rabbins répondent « Mais qu'est-ce que ça a à voir ?» En fait, la question de croire ou ne pas croire n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire comment vous allez agir dans le monde, mais finalement, la forme que va prendre votre croyance, la façon dont vous le définissez ou dont vous allez appeler Dieu n'est pas si centrale que ça. D'ailleurs, un des noms de Dieu, moi, il y a plein de noms pour Dieu dans le judaïsme, mais un des noms de Dieu, c'est Eli, mon Dieu, et ça s'écrit en hébreu de trois lettres qui veulent dire... Oulai, ça veut dire peut-être. Donc en fait, on croit à peut-être.
Rabbin, une fois, m'avait raconté ça, je ne l'avais pas cru.
Je me raconte les mêmes, c'est un problème.
Parce qu'il y a deux personnes qui racontent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui
racontent.
Et ça, je trouve ça très très beau. Le métier que je fais n'est, je pense, pas très très loin du travail que peut faire un rabbin ou un chaman. C'est un métier de recherche et de transmettre des questions sans jamais donner des réponses. Et en cela, c'est pas très différent. La différence, c'est que un artiste peut ne s'appuyer sur aucune tradition. Si j'affirme tout à l'heure que le ciel est rouge, je peux l'affirmer. Et donc, vous devez vous appuyer sur une tradition. Mais sinon, c'est des questions. Alors, mes questions à moi, je tâche qu'elles donnent des émotions en même temps, mais peut-être que toute question donne des émotions. On va employer des mots différents. En tout cas, les questions posées sont toujours les mêmes. Et, par exemple, il y a une question qui, je crois, est très liée au judaïsme, c'est comment Dieu peut-il apporter le mal à ceux qu'il aime ? Et c'est une question qui, naturellement, n'a pas de réponse, et qui est posée et posée.
Elle est posée, et c'est vrai qu'à chaque génération, on s'autorise à répondre différemment, et parfois même avec ce que les Hébreux appellent de la chutzpah, du culot terrible. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans la tradition juive où on peut engueuler Dieu, de ne pas avoir été à la hauteur à un moment donné de l'histoire. Il y a une autre blague juive que j'aime beaucoup, on est obligé de parler. C'est la première fois qu'on parle de théologie dans le judaïsme, c'est vrai qu'à part les blagues, on n'a pas tellement de ressorts, de ressources. C'est la théologie la plus profonde dont on dispose. Il y a une blague où un rabbin dans une synagogue fait l'office et il voit qu'il y a Moshe au dernier rang qui est en train d'avoir une conversation bizarre, et un peu une dispute avec quelqu'un. Alors le rabbin s'approche et il dit « Avec qui tu parlais pendant l'office ?» Et Moshe lui répond « Je parlais avec Dieu, c'est le jour de Yom Kippour, et je disais à Dieu « Moi j'ai rien à me faire pardonner, mais toi t'as plein de trucs à te faire pardonner, justifie-toi maintenant. » J'ai dit à Dieu « Tu sais quoi, je te pardonne, tu me pardonnes et on est quitte. » Et le rabbin à ce moment-là s'énerve et dit à Moshe « Mais pourquoi t'as laissé Dieu s'en tirer à si bon compte ?»
C'est très joli.
Et je trouve que finalement, par rapport aux injustices de l'histoire, à tous ces moments que t'es terrible, de ce qui s'abat, de terrible et de dramatique sur des gens bien et qui nous placent tous dans une crise existentielle ou religieuse, il faut accepter que dans le judaïsme, on tolère qu'on puisse être en colère et ne pas accepter et se rebeller.
Sans doute que j'essaie de comprendre le judaïsme parce que j'ai une tradition qui m'a parlé de ça étant enfant.
Alors il faut rappeler qu'enfant, vos camarades vous appelaient le petit rabbin, alors que vous étiez catholique. Hein.
Oui,
dans la famille.
C'était juste après-guerre et que c'est vrai qu'on m'appelait le petit rabbin. Et c'est vrai que je vous disais que, alors bizarrement, mon père qui a eu beaucoup de problèmes pendant la guerre, qui a été caché, etc., etc., disait, heureusement, il n'a pas changé de nom, mais il disait, on est juif, mais c'est pas la peine d'en parler, soyons français. Mmh. Et ma mère, qui était catholique corse et plutôt de bonne famille, disait, allez, vas-y, bats-toi, tu es juif, m'amener au quartier juif, parce qu'elle n'avait pas ce poids de l'histoire, elle n'avait pas cette crainte. Ce qui est très étrange chez mon père, c'était un homme très croyant, et donc catholique, et il n'est jamais entré dans une église. Il restait pendant la messe devant l'église. Parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez digne d'entrer dans l'église. Et sa seule pratique que je lui ai connue de la religion était de lire des livres pieux dans la salle de bain, tous les matins entre 5h et 8h du matin. Et ce qui est une manière juive de pratiquer une religion.
Ça résume très bien l'histoire juive, la conscience qu'on est toujours à la fois insider et outsider, et qu'on appartient, et parfois on appartient même encore plus ou mieux que d'autres, mais on est quand même à un moment donné montré du doigt comme un outsider, comme quelqu'un qui n'appartient pas vraiment ou qui, une société à un moment donné, va se construire sur votre exclusion.
Et mon nom tout de même s'appelait Christian, c'est tout de même c'est quelque chose. Quoi. Pour les Américains, quand je suis aux États-Unis, Christian, c'est tout de même vraiment marqué. Quoi. Et en fait, je m'appelle Christian Liberté, parce que mon deuxième prénom est Liberté, comme mes frères avaient toujours un prénom juif et un prénom chrétien, c'est Luc, Emmanuel et Jean et Élie, et moi, ils m'ont appelé Christian Liberté. C'est lourd, très très lourd.
Et malgré tout ça, et malgré votre histoire familiale, vous ne croyez pas, pourquoi ?
Parce que je pense que la croyance est dangereuse, réellement. Alors, d'une part, je suis un esprit vraiment obtus sur tous ces plans, je ne peux pas comprendre ce que c'est que de prier. Et puis, comme je suis totalement incapable d'avoir une vie intérieure, comme on dit, je me rassure en disant qu'il ne faut pas croire. Il faut chercher, mais il ne faut pas croire. Peut-être qu'à la fin, justement, que ce serait encore plus beau, qu'il n'y a rien. En même temps, j'admire ceux qui croient. D'abord, je pense que c'est une chose beaucoup plus optimiste. Je suis beaucoup intéressé à la chance, au hasard. Et effectivement, si je me fais écraser en sortant d'ici, il y a une explication qui serait une explication religieuse, que c'est écrit quelque part. Si on est comme moi sans religion, c'est simplement parce que j'aurais pas regardé à gauche et que je pensais à autre chose. Vous voyez que c'est le hasard. Et donc je pense que c'est pour ça que je suis tellement intéressé au hasard, c'est parce que je pense que c'est vraiment le choix d'être religieux ou pas religieux.
Mais pour moi, être religieux, étymologiquement, c'est faire des liens, c'est-à-dire être dans un exercice de couture, de lien. Moi, ce qui me préoccupe dans ce que je fais au quotidien, c'est de savoir comment je continue un chemin tout en étant dans une forme de création. C'est-à-dire comment est-ce que je suis à la fois dans la continuité et dans la rupture, dans la fidélité et dans l'infidélité.
Merci de cette rencontre.
Merci beaucoup. Et cet endroit était très parfait pour faire cette rencontre. C'était vraiment bien.
D'histoire. Merci, j'étais ravie de vous rencontrer.
avec vous pour cette deuxième partie. Il y a un couple, ils ont chacun une activité qui les passionne, qui les anime. Je vous laisse nous les présenter car vous avez tenu à leur présence, Christian Boltanski.
Alors, il y a Caroline Eliashev, avec qui j'ai souvent parlé.
Psychanalyste, pédopsychiatre.
Oui, nous avons fait ensemble une grande discussion sur la transmission, et ce qui m'a beaucoup appris. Et puis Marine Karamitz, qui est, c'est toujours gênant à dire, mais je pense, comme on dit toujours, un de mes meilleurs amis, voilà. Pour le français, personne.
Et qui dans la vie est l'homme de cinéma que l'on connaît, l'homme qui a accouché de grands films en étant producteur, distributeur, en étant le patron de ce grand réseau qui est le réseau MK2. Vous avez d'ailleurs laissé la direction à vos fils, hein? À vos fils, à tous les deux.
Mais c'est une affaire de transmission aussi.
Ah oui, on est dans la transmission, là.
On est dans un autre type de transmission, mais du moins deux types de transmission. Une transmission, disons, éthique, morale, et une transmission physique, puisqu'il s'agit de transmettre une affaire, de continuer à la faire vivre, lui permettre de continuer à vivre. Et c'est deux choses différentes, mais complémentaires.
C'est important de dire que c'est d'abord éthique et morale, MK2.
En ce qui me concerne, tout ce que j'ai essayé de faire dans la vie, c'est j'ai essayé de le faire de façon éthique et morale. L'inscrire aussi dans ce que m'a appris mon père, pas grand-chose, si ce n'est que on ne ment pas, on ne vole pas et on ne dénonce pas. Et à partir de ces trois choses, on peut essayer d'apprendre à vivre et surtout à refuser beaucoup d'éléments qui participent et du vol et du mensonge et de la dénonciation.
On peut être un gros chef d'entreprise sans mentir.
Oui, oui, oui. On peut dire la vérité, ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de gens me trouvent absolument insupportable.
Vous avez un caractère difficile, dit-on.
Voilà. Parce que c'est vrai que la vérité est parfois très compliquée et à dire et à entendre.
Il est cash, votre amoureux, Caroline Eliashev.
Cash, on va dire ça.
On vous a appris ça aussi dans la famille Boltanski, à se conduire bien, à avoir une éthique, à revendiquer une éthique?
Je ne sais pas. Je pense que mes parents étaient des gens tout à fait remarquables. Non, la vie m'a appris des choses. Que chaque humain peut tuer son voisin, et parfois le sauver, mais également le tuer. Que la vie était extrêmement dangereuse, et ça c'est lié à mon enfance. Pour Marine, et pour parler de ce qu'il a fait professionnellement, j'ai toujours pensé qu'il se servait des cinéastes, comme il s'est servi après ça des artistes et des photographes, pour essayer de comprendre. Et donc, il utilise, dans le bon sens du terme, d'autres personnes autour de lui qui à chaque fois le font progresser dans la connaissance. Quand il collectionne des images, comme il fait aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour lui de mieux comprendre le monde.
Oui, parce que c'est un grand homme de cinéma, autres. Marine Karamitz, c'est un grand collectionneur. Voilà. Hein.
Notamment de photographie, mais aussi d'objets plastiques. Mmh. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est une sorte, ça lui est utile pour essayer de mieux comprendre des questions qu'il se pose.
Où êtes-vous né, Marine Karamitz?
Je suis né à Bucarest, en 1938.
Et vous avez connu, petit garçon, forcément la guerre. Et vous avez vécu des choses extrêmement douloureuses et cruelles.
J'ai surtout vécu la peur qui nous entourait et qui était partie intégrante de la vie de mes parents ou de ma famille. Puisqu'en tant que juif en Roumanie, on avait le droit à peu de choses. On n'était plus roumain, on n'était plus rien. Je ne suis pas allé à l'école avant l'âge de 8 ans. Enfin, je suis allé la première fois, en fait, je suis réellement allé à l'école, c'est en France, à l'école communale près de Nice. Je ne savais ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je garde quand même de très beaux souvenirs de mon enfance.
Alors que vous avez eu à un moment un pistolet sur la tempe à 3-4 ans?
Oui, mais enfin ça fait partie, il y a eu des gens qui ont eu plus que ça, beaucoup plus que ça.
Vous relativisez?
Oh oui, complètement. Non, je crois que c'est autre chose. Je crois que à partir de cette situation qui était faite aux Juifs, je crois qu'on ne peut pas ne pas se sentir, en tout cas moi je me sens très profondément un mort-vivant. Et que le problème c'est de vivre. Comment vivre? Que faire pour vivre? Et la création, l'art, les artistes m'ont beaucoup aidé à vivre, mais surtout à vivre.
En quoi un cinéaste peut aider Marine Karamitz?
Par sa capacité de créer. J'étais moi-même cinéaste.
Vous avez fait des films dans la fin des années 60.
Oui, puis j'ai eu la chance de travailler avec Marguerite Duras, de travailler surtout avec Samuel Beckett. Ouais. J'ai fait un film avec Samuel Beckett, avec qui j'ai vécu, disons, quotidiennement pendant plus d'un an. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des hommes absolument remarquables. Et ce qui me fascinait, c'était leur capacité de transformer la réalité par la création. Là, je touchais du doigt la vie.
Ces gens-là, au fond, vous ont, et ces gens-là, c'est pas n'importe qui, hein, vous ont appris à admirer?
Non, j'ai pas eu besoin qu'ils m'apprennent à admirer. J'ai admiré immédiatement leur travail. Ils m'ont apporté, ils m'ont beaucoup donné dans leur rapport avec justement la vie, avec ce qu'ils ont rapproché de Dieu, si vous voulez, pour parler autrement et de façon plus simple, à condition évidemment qu'on ne donne pas de définition au mot Dieu, mais donc qu'il est rapproché de la transcendance. Dans les œuvres de Christian, je suis profondément touché par son rapport avec la création. Alors ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la création, ce n'est pas l'illustration, ce n'est pas la reproduction. C'est la capacité de transformer la réalité, d'apporter des petites pierres ou des plus grosses pierres à ce qui a été apporté précédemment, que ce soit au cinéma, mais que ce soit aussi en littérature, en peinture, en musique, etc.
Et
ce
que Christian Bachanski dit qu'on se répète et on répète tout le temps.
Je ne pense pas en ce qui me concerne. C'est-à-dire, je ne pense pas que Christian Boltanski imite Picasso. Je pense qu'il travaille à l'intérieur de lui-même et que moi, j'y ai toujours perçu des évolutions successives, mais de son histoire, de sa réalité. Mmh. Les pierres qu'il a amenées étaient les siennes, ce n'étaient pas les pierres du voisin. Je l'ai connu assez tardivement, j'ai connu grâce à Christian
Boltanski. Qu'est-ce qu'il faisait comme œuvre à l'époque alors, Christian Boltanski?
Je faisais déjà à peu près la même chose.
Vos installations?
Oui, c'était pas. Je pense que c'était dans les années 88, 89, quelque chose comme
plus
ça.
Plus tard.
Ou 90, voilà. Mmh. On s'est rencontrés, pour être très snob, dans un bar à Boston.
C'est très snob.
C'est très snob, n'est-ce pas? Je faisais une conférence et on s'est retrouvés dans un bar comme deux malheureux et on a bu et bavardé tout pendant très longtemps et on est devenus amis ce jour-là. Mais je crois que ce qui nous lie, Marine et moi, c'est aussi qu'en fait, nous sommes des gens qui aimons beaucoup la vie. Et alors, je crois que c'est justement parce que nous savons que le monde est atroce, que la vie est atroce, qu'on peut se faire tuer à chaque instant, que le malheur est là, et que c'est pour toutes ces raisons que nous aimons la vie, et que nous profitons de la vie, que nous sommes de très bons vivants. La connaissance de la tragédie, et la tragédie qui peut être constante, nous fait encore plus aimer la vie.
Beckett aimait la vie?
Beaucoup. On passait nos journées, nos nuits à boire. On commençait à 13h à la closerie des Lilas, puisque c'était le seul endroit dans Paris qui avait du whisky irlandais, et on terminait à 5h du matin, de bistrot en bistrot. D'ailleurs, on croisait Giacometti de temps en temps, qui faisait le même parcours, plus ou moins le même parcours, d'alcoolique.
C'était pas du whisky, lui, si?
Je crois plutôt que c'était du rouge qui tâche.
Et de quoi parliez-vous avec Beckett?
Parfois, c'était des longs silences, mais parfois, on parlait de peinture. Par exemple, Samuel, qui était entouré de tableaux de Bram Van Velde, oui, extrêmement colorés, me disait tout le temps, la peinture, ça ne peut être qu'en noir et blanc. D'où ma passion pour Christian, qui est essentiellement en noir et blanc. Au début, je comprenais pas ce que me disait Beckett. Pour moi, la peinture, c'était quand même la couleur. Et je n'ai compris que très tardivement, que effectivement, le noir et blanc dit beaucoup plus de choses en ce qui me concerne que la couleur.
I got more to say, Lord.
Le Grand Atelier sur France Inter.
C'est vrai qu'on a vu à plusieurs reprises, dans diverses expositions, votre appétit pour la collection. Vous collectionnez, Marine Karmitz, des photos en noir et blanc. Il n'y a pas du tout de couleur ?
Quelques traces de couleur.
Ouais. Et puis il y a des toiles, et puis il y a des œuvres. Est-ce que vous collectionnez du Boltanski ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez bien chez sûr, vous ? C'était... Dans votre bureau, je crois qu'il y a une œuvre.
Ah, il y en a partout. J'ai toutes les époques de Boltanski. Il dit que c'est toujours la même chose, mais pas du tout. La première œuvre de Boltanski que j'ai achetée, c'est une boîte en fer blanc dans laquelle il y a des vêtements, des restes. C'est recouvert d'un métal, enfin d'une espèce de tissu métallique, si on peut dire. Et il y a une photo d'un enfant en noir et blanc. Et une lumière sur ce visage de jeune femme, c'est sublime. J'ai été totalement, complètement submergé quand j'ai vu cette œuvre-là. Ça fait partie des œuvres anciennes de Christian.
Années 60 ou 70 ?
70.
Déjà des visages.
Oui.
Et déjà des boîtes en métal.
Oui, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de boîtes de biscuits dans ma vie. C'est pour ça que je suis un peu gros aujourd'hui, parce que j'ai été obligé de manger tous les biscuits. Hein. Alors, j'achetais, il y avait encore des fabricants de boîtes de biscuits, ce qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Et alors, je téléphonais en disant, je lance un nouveau biscuit pour Noël, pouvez-vous me livrer 2000 boîtes ? Et donc, je me suis fait passer pour fabricant de petits biscuits, ce qui simplifiait les choses. Et après ça, je voulais les rouiller. Et alors, au début, je les rouillais en faisant pipi dessus. Et puis, la masse de boîtes que j'utilisais faisait que je ne pouvais plus fournir. Et donc, j'ai utilisé le Jex Four, qui est remarquable, et le Coca-Cola. Le Coca-Cola est un très bon acide, je ne sais pas ce que ça fait dans l'estomac, mais en tout cas, ça rouille les boîtes de biscuits. Alors, le mélange Jex Four et Coca-Cola est parfait.
Je sens que Marine Karmitz ne va plus regarder l'œuvre de la même manière.
Elle ne va plus oser toucher la boîte en disant « c'est dégoûtant ». Bon, c'est très très vieux, donc tout ça a dû s'évaporer dans la nature.
Autre œuvre acquise par vous, Marine Karmitz.
Une des dernières, quasiment la dernière, et c'est un film que j'ai montré à la Maison Rouge. C'est un plan unique de 12 heures. C'est le jour qui se lève et la nuit qui arrive. C'est un désert blanc et des clochettes au bout de petites hampes, de petites qui s'agitent au vent. On peut imaginer beaucoup de choses autour de cette œuvre. Je ne ferai pas le commentaire sur ce qu'elle signifie, parce que j'aime pas ça. Mais c'est très différent de la boîte, première œuvre de Boltanski que j'ai achetée.
Preuve qu'il évolue et qu'il ne se répète pas.
Il évolue, mais il parle toujours de la même chose.
Oui.
Il parle toujours, c'est toujours le même sujet. C'est la dépouille et la mort. Ou comment vivre. C'est aussi la vie et le besoin de vivre.
Je pense qu'on guérit jamais de son trauma. Mais là, je m'excuse de parler de trauma devant
Caroline. Ouais, je t'écoute.
Mais je pense que on l'accepte plus. Donc cette dernière œuvre, effectivement, c'est une œuvre d'acceptation. Alors que l'autre est une œuvre plus de révolte ou de souffrance. Et là, c'est après.
Je me tourne vers la psychanalyste qui vous écoute, Caroline Eliachef. Comment vous les regardez ? Ces deux hommes-là, est-ce que vous avez de temps en temps un regard de psychanalyste, justement ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de faire une psychanalyse.
Pas du tout. Je crois qu'on est psychanalyste dans son cabinet quand les gens viennent vous consulter, mais que Dieu merci pour eux, et contrairement parfois à ce que les gens croient, on n'exerce pas en dehors de son cabinet. Alors bien sûr, on a acquis un certain nombre de choses, donc on est probablement un type d'écoute, mais même cette écoute n'est pas exactement la même dans le cabinet et en dehors.
Mais si on devait s'amuser à les analyser comme ça un peu rapidement, là, aujourd'hui, pour la radio, on pourrait dire que l'art les a sauvés ou c'est un cliché ?
Sauvés.
Aidés ? Portés ?
Quand Christian parle du traumatisme, peut-être au sens où on en parlait autrefois, il y a diverses manières de faire avec ces traumatismes. Soit, on se positionne comme victime et on fait carrière de victime, ce qui est quand même assez couru aujourd'hui. Soit, on en fait autre chose. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas ce qu'on a vécu est une chose, mais ensuite, il faut en faire quelque chose.
Faire quelque chose de ces traumas, quand oui. Christian Boltanski dit ça, ça vous parle ?
Ah oui, tout à fait. Pour Christian, c'est assez paradoxal, parce que moi, je pense que Christian était un enfant complètement fou.
En n'allant pas à l'école, en étant désocialisé
Oui, en étant totalement marginal, avec des parents qui ont eu l'intelligence
de le prendre comme il était et de lui foutre la paix. À une autre époque, il aurait été ne pas aller à l'école, ça aurait été impossible.
Bah, aujourd'hui, ce serait impossible.
L'aide sociale à l'enfance serait venue, on l'aurait obligé, etc., etc. Lui avoir permis de vivre tranquillement, sans l'embêter, cette période.
C'est sa folie.
Oui, enfin, bon, j'ai ça de façon un peu une folie vulgarisée. Je parle pas de folie psychiatrique.
Lui en parle, hein. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous auriez pu finir en HP avec d'autres parents.
Je pense que j'aurais été un bon artiste outsider, peut-être meilleur que ce que je suis aujourd'hui.
À l'hôpital psychiatrique.
À l'hôpital psychiatrique.
Vous auriez fait de l'art brut.
Oui. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir dans cette folie ou dans cette étrangeté une sorte d'énorme énergie. Et je vois peut-être d'amour de la vie qui m'a donné la nécessité de faire des choses. Et aussi, effectivement, d'avoir un contexte familial qui m'a aidé.
Ils ne t'ont pas cassé.
On m'aurait sans doute envoyé chez le psychologue, le psychiatre. Et petit à petit, on peut rentrer dans le monde psychiatrique. Mmh. Moi, je dis toujours que quand on a des enfants et que ces enfants ne font rien à l'école, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Il faut leur dire, c'est très très bien, tu verras plus tard.
Vous dites ça aux familles qui viennent vous consulter, à vos patients, écoutez, quand ils ont des problèmes avec des enfants?
Alors, quand des gens viennent consulter, ils viennent très souvent consulter justement pour des problèmes scolaires.
Hein. Qu'est-ce que vous dites?
Notre rôle n'est pas, enfin mon rôle tel que je le conçois, n'est effectivement absolument pas de mettre un enfant dans le droit chemin, etc. Mais de voir quelles sont ses possibilités à lui. Si elles ne sont pas scolaires, elles seront autres et essayer effectivement que les parents arrivent à le supporter comme il est et non pas comme il voudrait qu'il soit.
Vous observez plus les parents que les enfants, non?
Non, j'observe pas plus, mais je m'occupe et des parents et des enfants. Enfin, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je pense qu'on ne peut s'occuper correctement d'un enfant que si on n'a aucun jugement sur les parents. Et c'est très difficile de n'avoir aucun jugement sur les parents. Les parents sont comme ils sont, ils font comme ils peuvent, ils font pas toujours très bien d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais si on prétend respecter un enfant, il faut aussi respecter ses parents.
Là, on sent la disciple de Françoise Dolto. Respecter l'enfant, c'était l'une de ses priorités, entre autres, que vous l'évoquez dans une journée particulière, ce livre consacré à Françoise Dolto. On va en parler juste après avoir écouté Angèle, La Thune.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. De moi dont on va parler. Où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi je m'en vais marcher. Naïve comme jamais. Loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses. Je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. À quoi bon? À
bien que je sois psychanalyste, j'espère que j'ai aussi du bon sens et que je pourrai peut-être, mais je n'en suis pas sûre, aider des pères et des mères dans des difficultés assez fréquentes et qui précèdent de beaucoup des ennuis plus graves pour lesquels on amène les enfants chez les médecins, chez les psys. Beaucoup de choses commencent à bas bruit et les parents ne les prennent pas au sérieux, ou plutôt les médecins ne les prennent pas au sérieux. Et les parents savent qu'ils sont déjà ennuyés, leur enfant a changé, ils voudraient savoir comment faire. Et très souvent, ils pourraient trouver comment faire s'ils réfléchissaient un peu. Et ce que je voudrais, c'est aider les parents à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire.
Il y a combien de temps Françoise Dolto a disparu, Caroline Eliachef?
Alors, samedi 25 août, c'est la date anniversaire des 30 ans de son décès.
Vous dressez le portrait d'une femme qui est hyper énergique.
Hyper énergique.
Dès l'enfance d'ailleurs.
Absolument. Elle a toujours eu une énergie absolument incroyable. À une certaine époque, sa fille Catherine parlait de son gène TGV. Ouais. Elle faisait tout très vite et elle faisait énormément de choses.
Qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être d'être l'amie de cette femme, mais surtout sa disciple?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'étais pas amie. Et je l'ai connue assez tard, c'est-à-dire c'est pas du tout elle qui m'a formée. Quand j'ai commencé à assister à sa consultation, j'avais déjà 40 ans, et donc j'avais déjà suivi une très longue formation, en particulier avec Ginette Rimbaud. Donc elle a joué un rôle très important dans ma vie, puisque j'ai repris la consultation qu'elle faisait des enfants de la pouponnière d'Antony, donc ça a marqué vraiment professionnellement ma vie, mais je peux pas dire que j'étais véritablement ni une amie, ni... et je ne pense pas qu'elle ait ce qu'on appelle des disciples, car elle a beaucoup transmis, mais pas sur un mode institutionnel.
Elle tenait pas à avoir d'amis comme ça dans son métier ou...
Ah si, elle avait d'abord une vie sociale extrêmement importante, beaucoup d'amis dans tous les milieux. Elle avait un mari brillantissime.
Qu'est-ce qu'ils s'aimaient tous les deux hein?
Ah bah oui, c'est un couple
vous
absolument...
Vous le racontez ça.
C'est un couple absolument extraordinaire. Ils voyaient des gens de absolument tous les milieux, dans les milieux artistiques, dans les milieux scientifiques, etc. etc. Et c'était une maison extrêmement gaie où on riait beaucoup, où on faisait des tas de choses. Et elle était très ouverte à tout.
Elle aimait bien faire des blagues aussi. C'était quelqu'un d'assez drôle, tantôt.
Absolument, très drôle. Elle
Par
faisait
exemple,
des blagues
sa fille,
sans arrêt.
Quand elle rentrait de vacances avec son chapeau sur la tête dans le taxi, qu'est-ce qu'elle faisait?
Elles avaient un jeu où Françoise Dolto faisait le salut reine d'Angleterre. Donc, il fallait qu'elle ait un chapeau pour pas trop qu'on la reconnaisse. Donc, elle ouvrait la porte et elle saluait comme faisait la reine d'Angleterre avec le coude comme ça.
Et les,
ça,
gens,
ça
applaudissaient.
Les gens applaudissaient, ça l'amusait énormément. Mais c'était un jeu privé avec sa fille.
On croirait une blague de Christian Boltanski. Je vois bien faire la reine d'Angleterre. Vous écrivez, Caroline Eliachef, je me souviens d'un jour où face à un bébé de 3 mois qui se débattait terriblement à tel point qu'on ne pouvait pas le garder dans les bras, Françoise Dolto l'a délicatement posé par terre sur un tapis et lui a dit « Là, tu sais, je ne te comprends pas ».
C'est la dernière consultation qu'elle a faite. Donc, elle faisait une consultation pour les nourrissons de la pouponnière d'Antony. Et si je devais dire ce que j'en retiens, la première chose, c'est qu'elle utilisait sa culture et je ne savais pas qu'on pouvait le faire en réalité. Et ça, c'était très, très important, parce que quand on dit comme ça, tu fais du Dolto, on peut pas faire du Dolto parce qu'on n'a pas la même culture qu'elle. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand nous la voyons comme ça, totalement désemparée, on était évidemment stupéfait, surpris, on comprenait pas qu'elle puisse pas comprendre. Jusqu'à ce que moi-même je comprenne que le fait de ne pas savoir et de dire à l'enfant « je ne comprends pas, si tu veux que je te comprenne, fais-moi un signe », c'était un instrument de travail, c'était pas un défaut de ne pas comprendre, de ne pas savoir, etc. Parce que c'est l'enfant qui devait comprendre. Alors, il n'y a pas beaucoup de métiers où on se sert de son impuissance comme instrument de travail.
Marine Karmitz, ne pas tout comprendre forcément, c'est important aussi quand on est producteur. On peut aimer l'œuvre d'un cinéaste sans comprendre tout, mais on prend en tout cas.
Oui, mais moi j'ai une grande chance, c'est Caroline Eliachef qui me fait comprendre. Car je lui explique mes cas difficiles.
Oui. De cinéaste.
Et je lui demande son avis. Que dois-je faire? Je ne comprends pas ce qu'il veut. Je ne comprends pas comment m'y prendre pour arriver à lui expliquer ce qu'il faudrait peut-être couper ou rajouter, etc. Je pense par exemple à Godard. Je faisais Sauf qui peut la vie avec lui. On devait aller à Cannes. C'était vraiment très important. C'était un film pour son retour. Il était quasiment oublié à l'époque. Et il est parti aux États-Unis chez Coppola. Et il ne voulait pas revenir pour terminer le film. Et je disais à Caroline, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je le fais revenir? Et Caroline a réfléchi un moment et puis elle me dit, voilà, tu dois l'appeler, lui donner un rendez-vous très précis, ce que tu veux, n'importe où, n'importe quelle heure, mais donne-lui 24 heures pour revenir. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je veux te voir 24 heures donc, plus tard, à l'horloge, au bas de l'horloge de la gare Saint-Lazare, à minuit. Bon. Il était là à minuit. Voilà. Et donc il est revenu terminer son film. Et ce film n'a pu se terminer que grâce à Caroline.
Il avait besoin de choses précises.
Oui, et totalement aléatoire. Il fallait justement que ça apparaisse comme n'ayant aucun sens. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui interprète beaucoup, donc il aurait trouvé du sens, etc. Tandis qu'à minuit à la gare Saint-Lazare, c'est tellement aléatoire qu'effectivement, il est revenu.
C'est ça, un couple.
Regardez. Elle dit...
Sauf qui peut la vie.
Regardez la fin du monde.
Jean-Luc Godard, 1980.
Elle dit, regardez. La fin du monde. Tout le temps. À chaque seconde. Partout. Ça s'étend. Elle dit c'est mieux, oui. C'était tellement difficile, tellement. Tellement dur. Tellement.
Janine, on doit y aller.
D'accord, on arrête. Pas de problème.
C'est mieux comme ça.
Je crois que quand on est artiste, très souvent on fait quelque chose et on pense savoir pourquoi on a fait cela. Et on découvre plus tard la vraie raison. Et parfois, qui est une raison tout à fait différente de celle pour laquelle on croyait faire cet objet. Et donc, on se redécouvre soi-même. C'est-à-dire que là, et c'est peut-être des choses qui sont un peu liées à la psychanalyse, parfois on n'ose pas se dire pourquoi on fait quelque chose. Et c'est que seulement 10 ans après qu'on peut accepter qu'on a fait ça. Et de comprendre pourquoi on l'a fait. C'est-à-dire que on relit son travail et en le relisant, on le comprend parfois mieux ou on donne une autre explication. Parce que je pense toujours qu'une œuvre d'art a plein d'explications. Mais en tout cas, on retrouve une nouvelle explication.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2018, à 73 ans, Christian Boltanski, vous comprenez le Christian qui avait 30 ans ?
Je peux voir dans ce Christian-là des choses que je ne me disais pas à ce moment-là et qui m'intéressent aujourd'hui.
Il y a un mot important dans ce que dit Christian, c'est « je relis », qui a deux sens. Hein. Je relis au sens de la relecture et je relis, je fais des liens.
On agit parfois en se donnant des mauvaises raisons. Mais je crois vraiment que chaque personne peut se retrouver, et ça pour moi c'est extrêmement important, que chaque personne a sa propre lecture. Et puisqu'on parle de cinéma, on voit tous les gens, je crois d'ailleurs que c'est Carice Tabi qui a dit ça, on voit tous les gens qui sont dans une salle de cinéma qui voient un film, mais en fait chacun voit un film différent. Parce que finalement, si on a été lâché par sa petite copine la veille, on voit pas le film de la même manière que si on est extrêmement heureux avec son ami. Et donc je pense qu'une œuvre d'art, comme ce que j'essaye de faire, est quelque chose de suffisamment ouvert pour que chacun le voit d'une autre manière et le voit par rapport à lui-même. Et je pense, par exemple, que si on peut, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce que Proust ne parle pas de lui, mais il parle de chaque lecteur. Parce qu'on a tous été jaloux, on a tous attendu notre mère dans une chambre, on a tous eu un oncle ridicule. Donc, en fait, il ne fait que de parler de chacun.
Et ça, c'est votre mission aussi, c'est votre envie, en tout
que
cas.
C'est mon envie. Et ceux qui disent, mais comment il sait ça sur moi? Et donc, il y a très longtemps, mais là, c'est un peu caricatural, je pensais que l'artiste était quelqu'un qui n'avait plus de visage et qui avait un miroir à la place du visage et que chacun qui le regardait se disait « mais c'est moi, il est moi ». Et qu'on devenait comme ça le désir de chacun qui vous regardait.
C'est une sorte de Graal.
Oui, en tout cas, ce serait une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse d'abord parce qu'il est beaucoup plus facile d'être artiste. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je suis artiste. Il est plus facile d'être artiste que de vivre. Et dans cette mesure, quand on est artiste, on ne vit pas. On montre la vie. Et c'est plus facile de montrer la vie que de vivre réellement.
Ça vous parle, Marine Karmitz ?
Je crois qu'il faut que j'apporte une précision. C'est que ce que dit Christian, c'est-à-dire la possibilité de faire des œuvres où chacun y apporte son manger, où chacun y trouve ce qu'il veut, c'est réservé aux très grands artistes. cette possibilité qu'évoque Christian, et ça, je pense que c'est pas lui qui peut le dire, mais moi, je tiens à le dire, c'est possible chez Kiarostami, chez Christian Boltanski, chez Kieslowski, chez Godard, ce n'est pas possible chez tel ou tel cinéaste américain, des grands studios américains, qui vous balance une histoire à laquelle il faut croire d'un bout à l'autre, et où surtout, il faut rien apporter, parce que si on apportait quelque chose, ça deviendrait dangereux pour soi et pour l'histoire.
Merci Marine Karmitz d'être venue exprimer votre amitié et votre admiration aussi pour Christian Boltanski. Merci Caroline Eliachet.
Merci à
vous. Je rappelle ce livre chez Flammarion, Françoise Dolto, Une journée particulière. Qu'est-ce que vous allez faire en repartant là, Christian Boltanski ? Travailler ou ne pas travailler ?
Je travaille très très peu malheureusement.
Oui mais ça c'est une phrase.
J'ai l'impression que il faut être totalement à l'intérieur du travail. Mais c'est pas forcément en fabriquant quelque chose qu'on arrive à comprendre. Le moment de fabrication peut être extrêmement court. Vous savez, toujours, il y a cette histoire de Picasso, il fait un dessin en 3 secondes, et puis il demande une somme énorme, il lui dit, mais comment vous avez travaillé que 3 secondes ? Il dit, oui, mais j'y pense depuis 25 ans. Et dans le cas de chaque artiste, je crois, c'est qu'il n'y a que ça qui compte. Et puis, il y a un moment où on a l'impression, d'une manière très étrange, que, généralement, on se trompe, mais qu'on a compris quelque chose. Et à ce moment-là, l'œuvre n'est pas commencée, mais elle est déjà terminée. Et donc, on attend ça.